France Culture.
Quentin Lafay, à voix nue.
Nicolas Sédoux, président de Gaumont.
Aujourd'hui, quatrième épisode de l'intérieur des films. Bonjour Nicolas Sédoux.
Bonjour.
Je voudrais qu'on parle aujourd'hui du cinéma comme œuvre, comme art collectif, de votre rapport aux actrices, aux acteurs, de votre rapport également aux coproducteurs, à cet ensemble qui fait le cinéma français, le cinéma étranger également. Mais avant tout, je voudrais que vous nous parliez de vous comme chef d'entreprise, comme dirigeant d'entreprise, et notamment, on dit souvent, on prétend souvent que celui qui dirige est extrêmement seul. Est-ce que vous sentez seul? Ou est-ce que dans votre parcours, vous vous êtes senti seul parfois?
Alors, beaucoup de questions. Je vais commencer par la dernière. Je crois que, je le dis dans le livre, Gaumont, à un moment donné, a traversé une période complexe, difficile. Je devais me séparer de Daniel Toscan-Duplantier, parce que, à nous deux, on sortait des comptes qui n'étaient quand même pas acceptables. Et au même moment, sont partis deux autres dirigeants significatifs, Christian Fechner, producteur indépendant, mais qui était associé avec Gaumont, et Denis Chateau, qui était le responsable de la programmation. Et là, je me suis vraiment senti seul, d'autant plus que, comme on l'appelait, l'extérieur, le monde politique, les journaux, tapaient sur Gaumont à bras raccourcis. Et là, je n'aurais pas eu ma famille, à commencer par mon épouse, ça aurait été difficile. Alors, ceci dit, ce qui me confortait également dans le fait de faire face, c'est que je voyais bien que chez Gaumont, ça, les gens se posaient des questions, les gens avaient des doutes. Et à ce moment-là, bah, il faut se retrousser les manches et aller au charbon et faire face. Je crois que j'ai dû voir à peu près tous les salariés de Gaumont en un mois. J'organisais systématiquement des petits déjeuners, et puis quand j'ai terminé avec Paris, bien, j'ai fait le tour de l'ensemble des salles en province. Mais ça, tout le monde le dit. Quand tout va bien, tout le monde vous aime, tout le monde vous applaudit, tout le monde vous chérit. Quand c'est un peu plus compliqué, eh bien oui, il faut savoir faire face. Donc je pense que la phrase que vous évoquez, on se sent seul quand c'est dur et difficile, et ça c'est une phrase que vous retrouvez régulièrement dans les mémoires du général de Gaulle.
Est-ce que vous, vous estimez que parfois vous êtes seul, mais que ça a du bon aussi, pour prendre les décisions difficiles, graves, et que voilà, parfois il est important aussi d'être seul pour diriger une entreprise?
Ben, je pense pas. Je pense qu'une entreprise qu'on dirige bien, on la dirige avec l'ensemble des salariés, de celui qui vient de rentrer dans l'entreprise et qui n'a pas encore d'expérience, au plus gradé. Une entreprise bien dirigée, on ne doit pas se sentir seul. En revanche, quand vous avez à prendre une décision très difficile, ce jour-là, bien, il faut être sûr que vous prenez la bonne décision. C'est-à-dire, quand je dis la bonne décision, c'est celle qui est dans l'intérêt de l'entreprise, et que cette décision, bien, après ça, il faut veiller à ce qu'elle soit bien appliquée. Je crois que un chef d'entreprise qui se sent sur le long terme régulièrement seul, il y a quelque chose qui ne colle pas.
Vous n'êtes pas un réalisateur, vous n'êtes pas non plus un producteur, vous n'êtes pas un auteur, vous n'êtes pas un scénariste. D'ailleurs, votre nom n'apparaît pas ou rarement au générique des films. Alors, qu'est-ce que vous êtes dans le fond? C'est quoi être président de Gaumont concrètement?
Quand vous dites « mon nom apparaît rarement au générique des films », je crois qu'il n'apparaît jamais, peut-être qu'une fois, des réalisateurs, puisqu'il s'agit de Nakache et de Toledano, ont mis, sans que je le sache, mon nom au générique. Mais normalement, mon nom n'apparaît jamais. Vous venez de le dire, je ne me prends pas pour un producteur. Et je ne suis pas un producteur. Si je devais faire une comparaison, je suis le patron de la clinique, qui essaye de faire en sorte, je dirais particulièrement, disons, une clinique d'accouchement. Les parents viennent là parce qu'ils pensent qu'ils vont être bien accueillis et que leur enfant va naître dans les meilleures conditions. Mon rôle, c'est de faire en sorte que toutes celles et ceux qui vont s'occuper de cet enfant film soit les meilleurs possibles, accompagner le film pour que la promotion soit la meilleure possible, et en amont, si le réalisateur a besoin eh bien, d'aide particulière, parce que le script a besoin d'être pris à tel endroit, trouver les meilleurs dans son idée à lui et l'idée de faire en sorte que le plus grand public possible puisse être touché par le film. Car je crois que tous les films n'ont pas la même ambition, mais chaque réalisateur, chaque auteur rêve quand même qu'il soit vu par le plus grand nombre de spectateurs. Et donc, voilà, moi je suis le patron de la clinique et j'avais décidé de l'être quand je suis arrivé chez Gaumont il y a 50 ans et je n'ai pas changé d'avis au cours de ces 50 ans.
Vous avez évoqué les scripts, vous les reprenez parfois, vous les relisez, vous donnez votre avis quand même au moment du processus de création ?
Plus aujourd'hui, avant toujours. Avant toujours, et puis le producteur ne convainc pas le réalisateur, parfois je vois directement le réalisateur, voilà, et puis en général, les scripts ne sont pas trahis par la réalisation. Donc, je ne le citerai pas, mais j'ai en tête un script que je trouvais assez bon, où le film m'a franchement déçu. Mais c'est un seul exemple sur je ne sais combien de films.
Sans dévoiler de secrets de fabrication, Nicolas Sédoux, ce n'est pas l'objet de cet entretien, de cette discussion. Est-ce que vous pourriez nous raconter un script qui vous a profondément marqué dans sa lecture, et puis peut-être même le goût que vous avez pris à le lire avant même de le découvrir sur un écran de cinéma?
Bah, y en a un d'abord parce que je pense que beaucoup de vos auditeurs ont vu le film, parce que parler d'un script que quand personne n'a vu le film, ça ne peut pas intéresser
c'est
vos auditeurs.
Plaisant.
C'est Le Grand Bleu, si vous voulez. Le Grand Bleu, c'est pas du tout mon histoire. C'est-à-dire que c'est comment des jeunes adultes tombent amoureux du Grand Bleu, c'est-à-dire des profondeurs supérieures à 30 mètres, et une sorte de delphinisation du corps. Donc, c'est pas du tout mon univers. Je déteste avoir la tête sous l'eau. Mais j'ai senti qu'il y avait dans ce film un élan formidable. Et dans un premier temps, l'idée, c'était que ça allait être une coproduction américaine, que de grands talents allaient rêver d'être le plongeur qui. Et au fur et à mesure, tout ça s'est délité. C'est-à-dire que quand les comédiens ont découvert qu'il ne s'agissait pas d'aller simplement toucher le fond de la piscine, mais qu'il s'agissait réellement de quitter le bleu pour aller dans le bleu sombre et profond, ils ont fondu comme neige au soleil. Et je crois que Luc Besson a trouvé Jean-Marc Barr, parce qu'à un moment donné, je lui ai dit, mais voilà, c'est simple, c'est vous qui devez interpréter le rôle. Et là, il m'a regardé, et donc il a compris que je ne cherchais pas une vedette. Il a vu que j'avais une totale confiance en lui, et il a trouvé un ancien nageur de combat, et nous avons ce duo tout à fait inédit, Jean-Marc Barr et Jean Reno, en 1988, à des profondeurs certaines.
Donc votre nom n'apparaît jamais, allons-y, jamais dans le générique d'un film, mais quand même, vous mettez parfois un petit peu, même d'une façon éloignée, la main à la pâte. Parfois aussi, vous le racontez dans ce texte que vous avez fait paraître chez Gallimard et qui s'intitule « Le cinéma 50 ans de passion », vous racontez quand même que certains films, pour exister, dépendent de votre décision. Et pour illustrer cela, il faut nous raconter le chemin qui a permis à Don Giovanni, ce film qui sort en 1979, de voir le jour.
Bah, moi, je joue un rôle, oui, vous venez de le dire, le fait de dire à un moment donné oui ou non. Il y a une personne derrière Don Giovanni, c'est Daniel Toscan du Plantier, qui a donc été pendant 10 ans directeur général de Gaumont, et qui par la suite est devenu un producteur indépendant, produisant notamment quelques films d'opéra et tous les derniers films de Maurice Pialat, pour ne citer que ceux-là comme producteur indépendant. Daniel était avant tout un passionné de musique. Et il avait une phrase absolument superbe, « Je ne crois pas en Dieu, mais je suis sûr que Bach y croyait. » On peut ne pas croire en Dieu, être sensible à la spiritualité, et que donc il avait une approche viscérale à la musique. On va me parler de Bach, il y a évidemment d'autres figures, notamment une Mozart, et parmi les opéras de Mozart, Don Giovanni, qui n'est sûrement pas l'opéra le plus facile à porter à l'écran. Alors, un opéra a été porté à l'écran peu de temps avant par Ingmar Bergman, La Flûte enchantée, mais c'est un opéra filmé dans le théâtre de Stockholm, et d'ailleurs, c'est une Flûte enchantée en suédois. Là, l'idée est radicalement différente, c'est d'apporter le meilleur au plus grand nombre. Rolf Liebermann, qui a été pendant 10 ans responsable de l'opéra de Hambourg et depuis peu responsable de l'opéra de Paris, dont il va faire, ça ne veut rien dire la première scène mondiale, mais en tout cas, une des toutes premières scènes mondiales. Et donc, avec Rolf Liebermann, nous allons avoir, j'aime pas beaucoup le mot casting, la distribution musicale la plus exceptionnelle qui soit, avec notamment Teresa Berganza et Ruggero Raimondi, Kyrie Kanavoir, enfin, je veux dire, Edda Moser, probablement le plus beau plateau qu'on puisse avoir, et à la baguette, Laurine Mazel. Donc, l'idée, c'est de faire un film d'opéra, et non pas un opéra filmé. Et donc, l'idée, c'est Venise, de faire de Don Giovanni, ce qui est assez logique, à Venise, disons, bien une soufflerie, mais la soufflerie, ce qui compte, c'est le feu, hein, dans lequel terminera Don Giovanni, et d'avoir le meilleur décorateur qui soit, qui est Alexandre Trauner, qui va faire croire que la Rotonda, qui est à Vicenza, 80 km de Venise, est en fait un palais vénitien. Et il y a quand même une idée économique. L'idée économique, c'est que la musique classique est universelle. Elle n'attire pas dans le monde des dizaines de millions d'auditeurs, mais dans chaque pays, elle a beaucoup d'auditeurs. Quelques centaines de milliers, que ce soit le Japon, les États-Unis, l'Amérique du Sud. Et d'autre part, aucune censure ne peut jouer. On ne va pas censurer Don Giovanni. Donc, un marché mondial, marché relativement réduit dans chaque pays, mais un marché mondial. Et d'autre part, une œuvre étant très grande qualité, elle repassera régulièrement sur les chaînes de télévision.
Donc une forme de rentabilité dans le temps.
Donc, au bout d'un certain temps, le film doit être rentable. Nous avons totalement atteint nos objectifs en France. À l'époque, le film va attirer 800 000 spectateurs. Et aujourd'hui, il en a attiré 1 million. Donc, Paris français gagné sur le plan cinématographique. Le service public était coproducteur du film. Je crois que l'A2 a dû le passer 2 fois à des heures de grande écoute. Et puis après ça, c'est passé sur des petites chaînes. Donc le pari avec la télévision est un échec en France. Sur le plan international, Rolf Liebermann avait dirigé pendant 10 ans l'opéra de Hambourg. L'avant-première allemande a lieu à Hambourg. Et Rolf Liebermann s'est quasiment fait insulter d'avoir fait un film d'opéra. Quelque temps auparavant, 2 mois auparavant, le retour de l'enfant prodigue à New York, puisque Joseph Losey avait été chassé par le McCarthyisme des États-Unis, la critique du New York Times qu'on nous apporte entre le premier et le deuxième acte se terminait par « Et par ailleurs, vous pouvez acheter le CD de l'enregistrement qui est excellent. » Donc, le pari international a été totalement raté. Pour autant, quand je regarde aujourd'hui le catalogue Gaumont, bah écoutez, je vais vous dire, je suis plutôt fier que Don Giovanni figure.
Mais donc, pardonnez-moi, je ne comprends pas lorsque vous expliquez que vous n'êtes pas producteur, car ce que vous venez de décrire là, dans le fond, une décision fondée sur une appréciation créative, une appréciation artistique, alliée à une décision économique qui vise à long terme la rentabilité d'une entreprise. C'est pas ça, être producteur ?
Non, là, c'est... Être producteur, c'est avoir beaucoup plus les mains dans le cambouis.
De la production exécutive.
Être producteur, c'est rentrer dans le détail. Moi, on m'apporte le détail, et à un moment donné, c'est le feu vert ou c'est le feu rouge. Sauf qu'en fait, quand on est déjà à ce niveau de détail, ça veut dire qu'on avait un feu qui était peut-être pas tout à fait vert, mais qui était déjà assez... Bon, sinon, c'est pas la peine. Si on pense qu'on va faire ça pour 2 millions d'euros, il n'y a qu'à tout de suite fermer le dossier. Voilà. Donc, évidemment, il y a d'abord des discussions approfondies, mais il y a surtout cette idée, et je regrette que cette idée ait été une fausse idée, c'est-à-dire que le monde entier allait voir Don Giovanni, notamment que Don Giovanni n'ait pas été un succès au Japon, eh bien, puisque c'est probablement aujourd'hui le pays, plus que l'Allemagne ou l'Autriche, le plus enthousiaste de musique classique. Eh bien non, nous n'avons pas réussi au Japon. Alors que la Boom a réussi au Japon pour montrer que les Japonais sont ouverts de temps en temps à des films français qui n'ont rien à voir avec leur culture. Donc voilà.
On a presque réussi un exploit depuis le début de nos discussions, Nicolas Seydoux, puisque cela fait désormais trois épisodes où nous parlons de cinéma durant la seconde moitié du XXe siècle, et on n'a pas encore parlé de la nouvelle vague. Alors vous reprenez Gaumont à un moment où la nouvelle vague s'effrite légèrement, mais quand même, quelles sont vos relations avec ces auteurs-là, ces réalisateurs? Vous parlez notamment énormément de Jean-Luc Godard dans ce travail que vous avez commis pour Gallimard.
Alors, la nouvelle vague s'est faite en dehors, des grands classiques du cinéma français, et notamment de Gaumont. Gaumont, quand nous arrivons, n'a pas travaillé avec la nouvelle vague. Nous travaillerons, et notamment Daniel Toscan-Duplantier travaillera. Alors, est-ce que Claude Chabrol fait encore partie de la nouvelle vague? On peut en discuter à long terme. Et moi, j'ai la chance, avant de rentrer chez Gaumont, de connaître Jean-Luc Godard.
Je me permets juste de vous couper sur un point. Pourquoi Gaumont ne travaille-t-elle pas avec la nouvelle vague? Est-ce que c'est la nouvelle vague qu'il ne le souhaite pas, ou au fond, l'échange, la rencontre ne se produit pas?
Écoutez, dans le livre, je cite quelques propos de François Truffaut à l'égard de Michel Audiard. Michel Audiard est notamment associé à Georges Lautner dans un bon nombre de films qui sont tournés chez Gaumont. Que c'est pas exactement la même culture, que je pense que aujourd'hui, quand on regarde certains propos de la Nouvelle Vague, penser que le réalisateur est le seul auteur est une erreur absolue. D'ailleurs, Jean-Luc Godard, qui n'est quand même pas le petit bébé de la Nouvelle Vague, quand il tourne Le Mépris, c'est pas, ça se saurait si c'était un roman de Jean-Luc Godard. Et je pense de ce côté-là que les critiques de François Truffaut, notamment à l'égard de certains scénaristes anciens, sont beaucoup plus qu'outranciers. J'irais jusqu'à dire qu'ils sont erronés. Jean-Luc Godard, il se trouve que, voilà, j'ai beaucoup d'affection pour lui, pour une raison, c'est tout à l'heure, vous parliez de la solitude du dirigeant d'entreprise, que j'ai donc bien vécu en 1985. Ben, il y a deux personnes qui m'ont écrit une lettre. C'est Pierre Billard, qui était à l'époque responsable des pages culturelles du Point, et Jean-Luc Godard, ça s'oublie pas. Et après ça, pour parler de Jean-Luc Godard, en fait, je ne parle pas de Jean-Luc Godard, ou quasiment pas, je ne fais que reproduire les lettres qu'il nous a écrites lorsque nous avons fait des films qui vont de « Je vous salue Marie » à « Soigne ta droite », qui sont pas les films les plus connus de Jean-Luc Godard, mais je trouve que son histoire de cinéma est absolument formidable. Elle existe d'ailleurs à la fois en livre et en film, et que c'est une petite pierre blanche dans l'histoire du cinéma mondial.
C'est le moment, à mon sens, de nous parler d'une autre figure, d'un autre homme qui est pionnier dans la conservation des archives, pionnier aussi dans la conception de la cinémathèque française, c'est Henri Langlois, naturellement. Et Henri Langlois, pour vous, c'est un parrain, en tout cas, c'est comme ça que vous le qualifiez. Alors racontez-nous pourquoi.
Pourquoi ? Parce que, j'ai eu l'occasion de le dire précédemment, quand j'arrive chez Gaumont, il n'y a plus d'archives. Et qu'un jour, très vite après que je sois rentré chez Gaumont, Henri m'invite à visiter la cinémathèque. Alors, nous sommes très peu à l'avoir visitée, puisqu'elle n'a jamais pu être ouverte au public pour des raisons de sécurité, étant donné qu'il mettait des objets partout, y compris devant les issues de secours. Donc, c'est une visite en tête-à-tête. Et fondamentalement, il se tait. Il me laisse découvrir sa caverne d'Ali Baba. Et plus je marche, plus je vois des objets Gaumont. Alors simplement, de temps en temps, je dis « celui-là, il est de quand ?» Je dis 1905, il dit non, Nicolas, vous devriez savoir, il est 1903. Bon, enfin, passons.
Ça ressemble à quoi cet espace que personne ne connaît, en tout cas que moi je ne connais pas,
visuellement? Ah ben, vous en avez, si vous voulez, vous en avez aujourd'hui la quintessence à la Cinémathèque française, dans ce qui s'appelle le musée Langlois. Mais là, c'était à Chaillot. Ça ne pouvait pas être un musée, puisque il faut que les gens puissent se croiser dans un musée. Il faut que c'était une accumulation d'objets différents. Alors, avec un ordre très précis, mais que seul Henri Langlois comprenait. C'est-à-dire, pourquoi parce que sinon, on imagine que ça peut être chronologique, que ça peut être que Gaumont est un endroit, Pathé est un autre endroit, Méliès est un troisième endroit. C'était fondamentalement selon son inspiration du moment. De temps en temps, d'ailleurs, vous reveniez quelques mois plus tard, puisque j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois, vous reveniez quelques mois plus tard, et certains objets avaient été déplacés, certaines affiches avaient été déplacées. Et puis, disons-le, le problème, tous les grands collectionneurs le savent. À un moment donné, ce qui manque, c'est l'espace. Et jamais Henri et Marie Merson, qui étaient sa compagne, alors, sa compagne, je pense qu'ils avaient une passion absolue l'un pour l'autre, et Marie Merson, il ne faut jamais oublier de la citer, parce que c'est une jeune femme qui a eu la chance de connaître Picasso, qui... lui a donné des œuvres, alors Picasso et les autres, mais je cite le plus célèbre, et elle n'a pas hésité dans certains cas à vendre des toiles de Picasso pour permettre d'acheter une copie, pour permettre d'acheter un appareil fut-il incomplet. Donc c'est un couple tout à fait extraordinaire, que j'ai donc la chance de connaître, je vais donner un exemple, nous sommes, Françoise Giroux va décorer Jean Renoir de la Rosette à la Légion d'honneur à Los Angeles, et nous sommes quelques-uns à être invités pour assister. Françoise Giroux avait été la scripte de Jean Renoir sur la Grande Illusion, et elle était donc secrétaire d'État à la culture de Valéry Giscard d'Estaing. Et donc nous sommes quelques-uns, je suis à côté d'Henri Langlois pour aller à Los Angeles, et donc nous parlons, et avant d'atterrir, je lui dis « Henri, j'aimerais bien rentrer à côté de vous ». Il me dit « Non, Nicolas, je ne vais pas rentrer avec vous parce que je vais vendre mon billet de retour pour acheter une copie d'un film et après ça, le consulat sera bien obligé de me rapatrier. » Donc voilà, Henri Langlois est un personnage absolument ahurissant et vous l'avez dit, ce n'est pas seulement de trouver des objets, de trouver des copies de films, c'est de faire partager son enthousiasme. Alors de temps en temps, c'était un peu compliqué parce que moi, je me souviens avoir vu un film japonais, a priori, j'avais besoin d'avoir des sous-titres en français, et tout d'un coup, les sous-titres étaient en russe. Bon, c'est-à-dire que les copies, parfois, n'étaient pas rangées comme elles auraient dû. Disons-le, il y a eu deux incendies sur les archives de la Cinémathèque, et notamment, à peu près toutes les collections éclairs ont disparu à Pontault-Combeau. On s'en serait bien passé. Donc, un collectionneur, ce qui est intéressant, mais surtout un passeur, et ça, c'est formidable, et disons-le, la nouvelle vague n'existe pas sans Henri Langlois et Marie Merson.
Pour finir sur la dimension collective de votre travail, de la fabrication du cinéma aussi, et de l'imagination qui l'entoure, je voudrais qu'on dise un mot d'un homme dont vous avez déjà parlé, Alain Poiré, mais qu'on dise un mot de sa disparition. Il décède en 2000, vous l'avez raconté, il est le producteur historique de cette maison qu'est Gaumont. Comment est-ce que d'un point de vue très personnel, très humain, vous vivez cette disparition, mais aussi d'un point de vue de chef d'entreprise, comment vous inventez la suite?
Alain Poiré, c'est donc, il est rentré chez Gaumont en 1939, il est mort en 2000, ça nous fait la bagatelle de 60 ans, il est né en 17, donc il a 83 ans, donc toute sa carrière professionnelle se fait chez Gaumont. Et pendant longtemps, à peu près toute sa carrière, il a été le seul responsable film chez Gaumont. À partir du moment où Daniel Toscan-Duplantier me rejoint, donc on est début 1975, il va y avoir deux pôles de production chez Gaumont. Alain Poiré craignait qu'il y ait de la surenchère sur les talents, etc. Ça, il y a eu un problème une fois avec une comédienne et sinon, il n'y a jamais eu le moindre souci. Et quand Alain Poiré disparaît, Il y a déjà quelqu'un d'autre qui a succédé à Daniel Toscan-Dupontier, qui est Patrice Ledoux. Patrice Ledoux va faire venir chez Gaubon des noms aussi peu connus que Jean-Jacques Benex et Luc Besson, pour ne citer que ces deux-là. Donc, au moment de sa disparition, la continuité cinématographique est assurée et arriveront par la suite. Alors, quelqu'un qui a travaillé avec son père, mais qui est Jean-Marie Poiré, Les Visiteurs, c'est un triomphe absolu. Alors, Jean-Marie s'est fait connaître avant avec Le Père Noël est une ordure et Papy fait de la résistance, qui sont deux films qui font également partie, J'allais dire, parce que je trouve le mot un peu excessif, bon, mais qui font partie du génie français, c'est-à-dire que ce sont deux surprises absolues. C'est la troupe du Splendide qui est rassemblée dans ces films. À ce moment-là, je dois dire, j'ai pas relu les critiques de l'époque, dans la mesure où ce ne sont pas des films Gaumont, mais ce sont des films extraordinaires, et ce sont ceux qui vont faire que Jean-Marie commencera à être très connu, et puis par la suite, eh bien, notamment la série des Visiteurs, évidemment.
J'insiste, Nicolas Sédoux, parce que vous n'avez pas répondu à ma question, ou en tout cas pas totalement. Comment vous, vous vivez cela? C'est-à-dire, comme dirigeant d'entreprise, vous perdez, j'imagine, un très 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 proche collaborateur, peut-être un ami, ça je l'ignore absolument, mais surtout vous perdez un pilier important de ce qui faisait les fondations de Gaumont depuis que vous l'avez reprise.
Non, j'ai répondu à votre question, totalement répondu, puisque je vous dis qu'il y avait eu déjà sur un autre registre, mais on n'était pas dans le cadre où Alain Poiré avait encore un monopole du film chez Gaumont. Ce monopole n'existait plus, et donc il y avait d'autres talents. Je viens de parler de Patrice Ledoux. Patrice Ledoux, il a participé à la formation de Sidonie Dumas. La première personne qui m'ait parlé du script des Visiteurs, c'est Sidonie Dumas, qui est aujourd'hui la directrice générale de Gaumont. Donc, j'ai tout à fait répondu à votre question, c'est-à-dire que les gens extraordinaires, ils ne sont pas remplacés homme pour homme, poste pour poste. Alain Poiré, on ne remplace pas certaines personnes, mais la société continue avec d'autres. On a continué pendant un certain temps. Enfin, si vous voulez, intouchable est quand même la Comédie française qui a touché le plus de spectateurs dans le monde entier. 50 millions.
On a passé nos quatre entretiens, Nicolas Sédoux a évoqué le passé, et alors peut-être que d'ailleurs pour ce dernier épisode, si vous le voulez bien, on parlera et du présent et de l'avenir. À demain.
À demain, merci.
C'était À Voix Nue, Quentin l'a fait avec Nicolas Sédoux. Réalisation Manouchak Fachaï, coordination Daphné Abgral. Prise de son, Hervé Dubreuil. Vous pouvez retrouver cette série et toutes les émissions d'À Voix Nue sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.